je vous remercie d'être venu m'écouter ce soir. Alors, c'est vrai que je suis plutôt en réalité un spécialiste du XIIIe siècle, dans la mesure où j'ai fait ma thèse sur les armées des rois de France, de Saint-Louis à Philippe le Bel. Et je dois dire que je suis assez lié avec Elisabeth Laloux, qui a fait cette gentille présentation, puisque Elisabeth a été dans mon jury de maîtrise, dans mon jury de DEA, dans mon jury de thèse, dans mon jury d'habilitation et dans le comité de sélection qui m'a recruté à l'Université de Lyon. Donc voilà, je suis toujours très heureux de pouvoir être en sa compagnie ici à Rouen. Alors, donc si je me suis intéressé à Jeanne d'Arc, d'abord un petit peu contraint et forcé, parce que c'était une demande de Philippe Contamine. En 2007, Philippe Contamine avait été contacté par les éditions Robert Laffont pour faire ce volume bouquin, donc de la collection bouquin, qui fait à peu près donc 1200 pages, et il cherchait en fait des personnes avec lesquelles il puisse travailler. Et au départ, je dois dire que Jeanne d'Arc, ça ne m'intéressait pas tant que ça, et c'était quelque chose qui me paraissait un petit peu rebattu, un petit peu, voilà, un petit peu particulier comme ça. Et puis, comme beaucoup des gens qui ont été amenés à travailler sur Jeanne d'Arc, une fois que j'ai commencé à lire surtout les procès, c'est ça le texte le plus intéressant, c'est le procès de condamnation avec les questions et les réponses. C'est vrai que Jeanne d'Arc agit vraiment, et c'est très spécifique quand même à son cas, à son histoire, à son aventure, agit vraiment comme quelque chose qui attire. Et vraiment, une fois qu'on a mis finalement, qu'on s'est intéressé, on a commencé à s'intéresser à Jeanne d'Arc, il est très difficile de s'en détacher. Alors, un des éléments qui pouvait me faire douter au début, c'était que justement j'avais l'impression, j'étais encore jeune, c'était il y a 10 ans, j'étais encore jeune, et je me disais, mais finalement tout a été dit sur Jeanne d'Arc, puisqu'on travaille sur Jeanne d'Arc depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, et de façon assez sérieuse, et finalement tout a été dit sur Jeanne d'Arc, puisque les sources ont été rassemblées dès les années 1840-1850 par Jules Quicherat, et finalement là il avait réuni déjà 90% des sources à peu près qui étaient disponibles à son époque, des sources de l'époque médiévale qu'il avait publiées et présentées, et donc finalement tout le monde depuis 1850 pouvait travailler sur Jeanne d'Arc avec simplement ces 5 volumes. Et finalement vous savez bien que sous la Troisième République notamment, Jeanne d'Arc a été le sujet d'un culte, non seulement chez les catholiques, chez les républicains également, et puis un véritable culte également chez les historiens qui ont multiplié les études sur le personnage. Et de ce point de vue-là, on pouvait dire, finalement, il n'y a rien à trouver. Mais c'est là que, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants de master en histoire médiévale, finalement, chaque génération apporte sa propre contribution à l'histoire, et les choses sur Jeanne d'Arc qui paraissaient très bien connues, finalement, eh bien, on trouve toujours de nouvelles interprétations. Certaines, par exemple, autour du genre, du gender, sont très en vogue aux États-Unis, peuvent moins nous intéresser, mais il y a d'autres aspects, y compris des aspects d'érudition, qui peuvent nous recevoir aujourd'hui un nouvel éclairage, voire peut-être une nouvelle interprétation. Alors, c'est une hypothèse que je vais vous présenter aujourd'hui à partir d'un certain nombre de textes qui sont disponibles autour des relations entre Charles VII et Jeanne d'Arc, ou entre Jeanne d'Arc et Charles VII. Alors, l'image qui est à l'écran, elle est bien connue maintenant, puisque c'est un dais qui se trouvait sans doute, qui serait dans une collection privée, qui a été acquis par le Louvre en 2010, dans des conditions un peu mystérieuses, parce qu'on ne sait pas dans quelle collection ce dais se trouvait. Et donc il faut imaginer que Charles VII avait ça derrière lui lors des cérémonies les plus solennelles, et on voyait ces deux anges qui soutenaient une couronne au-dessus de lui. Donc c'était simplement un peu pour la beauté de l'image, mais je pense qu'on y reviendra quand même au cours de cette petite conférence. Alors je vous rappelle très rapidement la chronologie élémentaire sur Jeanne d'Arc. Elle naît vers 1412. Vers 1425, elle commence à l'été 1425, commence à entendre ses voix. Elle se rend ensuite auprès de Robert de Baudricourt au moment où commence le siège d'Orléans. Et puis en février 1429, elle se rend de Don Rémy à Chinon, où elle rencontre Charles VII pour la première fois. C'est cette scène de la reconnaissance un peu miraculeuse à laquelle procède Jeanne d'Arc, Charles VII s'étant mis parmi les courtisans et ayant désigné son cousin, le comte de Clermont, comme étant le roi, pour faire comme s'il était le roi. Et Jeanne d'Arc ne s'est pas laissée duper, et donc elle reconnaît Charles VII au milieu des courtisans. Le 22 mars, c'est cette fameuse lettre aux Anglais qu'écrit Jeanne d'Arc, un document très important où, à vrai dire, à le lire, on pourrait dire qu'elle est complètement folle, et c'est sans doute ce qu'ont pensé les Anglais. C'est vrai que, du point de vue de la syntaxe, elle alterne les passages à la première personne et les passages à la troisième personne. Elle dit « moi, je » et « la pucelle est envoyée par Dieu », etc. Donc c'est un document très, très curieux, mais c'est un document où elle dit, c'est cette lettre dans laquelle elle dit qu'elle va bouter les Anglais hors de France. S'ils ne partent pas d'eux-mêmes, elle les boutera en dehors de France. Au mois d'avril 1429, elle est à Blois avec l'armée qui est préparée par Charles VII pour secourir Orléans. Le dimanche 8 mai, c'est la levée du siège d'Orléans. Au mois de juin, la libération des places de la Loire, Jargeau, Main-sur-Loire, Beaugency. 18 juin, bataille de Patay, où Jeanne d'Arc ne joue qu'un rôle secondaire. Elle est cantonnée à l'arrière-garde, à son grand dépit. Elle voulait être au premier rang, mais de façon un peu prudente, sans doute, on la met à l'arrière-garde. Fin juin, c'est le début de la marche sur Reims, qui aboutit le 17 juillet, cette date fondamentale qu'est le sacre de Charles VII à Reims. C'est la date fondamentale parce que c'est ce qui va changer complètement le cours de la guerre de Cent Ans. On était dans cette phase de la guerre de Cent Ans où depuis 1420, il y avait, depuis le traité de Troyes, il y avait deux rois de France légitimes. L'un c'était Henri VI, fils de Henri V, roi d'Angleterre, de Catherine de France, qui était elle-même la fille de Charles VI, qui était roi de France en vertu du traité de Troyes, qui était un traité juridique, international, reconnu par le Parlement de Paris, par les institutions de la capitale, notamment donc le Parlement, l'université. Et puis, d'un autre côté, il y avait la légitimité du dauphin Charles, Charles VII, qui était une légitimité due au sang, parce qu'il était le fils aîné l'aîné des fils survivants, plus exactement, du dernier roi, Charles VI. Et donc, ces deux légitimités, finalement, entraient en concurrence, et il n'y avait pas, dans la famille royale, à ce moment-là, de véritables règles de succession. Et donc, dans la décennie 1420, les deux légitimités pouvaient se défendre, et en définitive, le fait que ce soit le premier fils survivant du roi précédent qui devienne roi, n'était pas quelque chose qui était entièrement reconnu, qui a fait l'objet justement dans la décennie 1420 d'une élaboration juridique. Et c'est justement par le sacre que Charles VII est pleinement reconnu comme roi. Et le sacre est vraiment l'œuvre sans conteste de Jeanne d'Arc. À partir du sacre, donc, c'est le début du déclin finalement, puisque déjà l'armée royale française reconquiert une partie de l'île de France, mais échoue le 8 septembre, le jour de la nativité de Notre-Dame, échoue devant Paris. Paris qui n'est pas du tout défendu du reste par des Anglais, il y a une toute petite garnison anglaise, mais Paris est défendu bien sûr par les milices bourgeoises, par les Parisiens essentiellement, qui étaient très hostiles à Charles VII, qui représentait le parti armagnac, le parti armagnac opposé aux bourguignons. Et les Parisiens étaient toujours très bourguignons. Pour les Parisiens, Jeanne d'Arc n'était d'ailleurs jamais que la putain des armagnacs. Donc toujours ce jeu, évidemment, sur la sexualité. Jeanne d'Arc revendiquant le fait d'être pucelle, d'être vierge, y attachant un très grand prix. Et de l'autre, évidemment, de l'autre côté, les Anglais et leurs partisans français étant très attachés à montrer que c'était une servante, une fille d'auberge et qu'elle avait une sexualité plutôt légère. À la fin du mois de septembre 1429, Charles VII décide de dissoudre son armée et de cesser, donc, au moins provisoirement, les combats pour entamer une phase de négociation. Jeanne d'Arc n'est pas très contente et en novembre-décembre, elle est employée dans des opérations qui sont un peu secondaires contre un personnage qui s'appelle Périnet Gressard, qui était une sorte de capitaine qui avait mis la main sur un certain nombre de forteresses et dont Saint-Pierre-le-Moutier et la Charité-sur-Loire. Et depuis ces forteresses, il faisait un certain nombre de déprédations, donc Jeanne d'Arc est envoyée le combattre. Elle prend Saint-Pierre-le-Moutier, mais elle échoue devant la Charité-sur-Loire. À partir de ce moment-là, entre décembre et mars, on ne sait pas exactement quelles sont les relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII. D'un côté, Jeanne d'Arc est anoblie, elle reçoit des armoiries très parlantes, puisque c'est une épée entouré de deux fleurs de lys, l'épée soutenant la couronne. Donc c'est difficile de faire plus explicite, malgré tout, comme reconnaissance du rôle de Jeanne d'Arc. Mais en même temps, Jeanne d'Arc est quand même tenue en résidence surveillée, presque, on peut dire, au château de Sully-sur-Loire, qu'elle quitte de façon un peu subreptice, un peu sans véritable autorisation, au mois de mars 1430. Et à partir de ce moment-là, elle a une petite troupe autour d'elle, de fidèles, de compagnons d'armes. On ne sait pas exactement d'ailleurs combien ils étaient, ni de qui il s'agissait. Mais elle mène une petite guerre dans l'est de l'Île-de-France, puisque cette partie de l'Île-de-France avait été reconquise par Charles VII à l'été 1429, mais avait été un peu abandonnée ensuite quand Charles VII avait dissous son armée. C'était notamment le cas de Compiègne, qui était assiégée alors par les Bourguignons. Et Jeanne d'Arc veut faire vis-à-vis de Compiègne ce qu'elle a fait pour Orléans, mais ça échoue et le 24 mai, elle est faite prisonnière. En captivité de juin à décembre, et en décembre, elle arrive ici à Rouen, son procès, janvier-mai 1431, jusqu'à son exécution, donc le 30 mai 1431. Voilà donc ce petit rappel un petit peu relatif à la brève carrière de météoritique de Jeanne d'Arc. Alors, ce soir, je vais simplement me focaliser sur, finalement, les relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII entre février et le 17 juillet 1429, entre le moment où elle arrive à Chinon et le sacre de Reims. Alors, je voudrais partir d'un texte qui est un petit peu mystérieux, qui est connu depuis longtemps, puisque, vous voyez, il a été édité par Léopold de Lisle, un très grand historien, en 1885, sous ce titre, Un nouveau témoignage relatif à la mission de Jeanne d'Arc. Alors, ce texte, et je n'ai pas mis l'auteur ici, mais c'est un dominicain qui s'appelle, ce dominicain s'appelle Jean Dupuis. Jean Dupuis, qui était évêque de Cahors, mais qui était un partisan de Charles VII, par conséquent. Et ce Jean Dupuis, évêque de Cahors, résidait au printemps 1429, en mai, juin, juillet 1429, il résidait à la cour de Rome, auprès du pape, qui était à l'époque Martin V. Et ce Jean Dupuis, ce dominicain, a écrit un certain nombre de textes, de traités, etc., mais notamment des espèces de notes sur un peu ce que des nouvelles qu'il recevait de France et qui concernaient les affaires de France. Et donc, il est amené, au printemps 1429, c'est le sujet par excellence, évidemment, il est amené à rapporter un certain nombre de choses qui concernent Jeanne d'Arc, et notamment ce texte, qui est assez, comme vous allez le voir, qui est un peu surprenant. On sait que Jean Dupuis a écrit au printemps 1429, on ne peut pas savoir quand exactement, mais entre, disons, deuxième quinzaine de mai et le mois de juin 1429. Que dire de plus ? Un jour, la Pucelle a demandé au roi de lui faire un présent. Cette prière fut aussitôt agréée. Jeanne ne demanda rien de moins que le royaume de France. Le roi, étonné, fit le cadeau après un instant de réflexion. Jeanne l'accepta et s'en fit faire, par les quatre secrétaires du roi, une charte dont il fut donné une lecture solennelle. Le roi en était un peu ébahi, et Jeanne, en le montrant à l'assistance, tint ce propos. « Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume. » Presque en même temps, par devant les mêmes notaires, elle livra au Dieu Tout-Puissant le royaume de France qu'elle venait de recevoir en don. Puis, au bout d'un instant, obéissant à un ordre de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France. Et de tout cela, elle fit dresser un acte solennel. Alors, c'est un texte un petit peu, voyez, un petit peu étonnant, qui date vraiment du printemps 1429. Vous voyez que Jeanne y est déjà appelée, et on sait que c'était le titre sous lequel elle était connue, ou l'appellation sous laquelle elle était connue, donc la Pucelle, on disait aussi la fille de Dieu, mais c'était souvent la Pucelle, quand même, on la connaissait comme ça. Alors, de quoi s'agit-il ? La Pucelle a donc un jour, on ne sait pas quand, mais c'est entre le mois de février et puis le printemps, forcément, la Pucelle a demandé au roi de lui faire un présent. Ce présent, c'est le royaume de France. Et donc, il faut imaginer Charles VII remettant le royaume de France à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc fait dresser par les secrétaires du roi. Les secrétaires, c'est les notaires qui, dans l'entourage du roi, sont chargés justement des secrets, des tâches les plus secrètes. Et on sait effectivement qu'il y avait bien quatre secrétaires à la chancellerie de Charles VII, comme des autres rois de France avant et après lui. Donc elle fait faire un acte solennel qui reconnaît, qui valide juridiquement la remise du royaume de France par Charles VII à Jeanne d'Arc. Ensuite, Jeanne d'Arc remet ce royaume de France à Dieu. Et ensuite, elle fait aussi dresser un acte constatant cette remise du royaume de France à Dieu. Et puis, ensuite, retour en quelque sorte par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc, Dieu réinvestit, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc, Dieu réinvestit Charles VII de son royaume, avec une nouvelle fois un acte solennel. Donc trois actes finalement qui auraient été dressés. Alors évidemment, on peut chercher toujours ces trois actes, hein, il y a peu de chances qu'on les trouve un jour, hein, et tout ça, ça sent quand même un petit peu, bien sûr, l'allégorie. Ça sent même un petit peu ces anecdotes qu'on appelle des exempla, c'est-à-dire des exemples qui étaient, dont les prédicateurs émaillaient leurs sermons pour retenir un petit peu l'attention. Mais malgré tout, ici, sous la plume de Jean Dupuis, évêque de Cahors, dominicain, donc quelqu'un de sérieux, l'épisode est présenté quand même avec une certaine... avec un certain sérieux, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui est anecdotique. Et de fait, on voit que cet épisode donc de l'investiture du royaume à Charles VII par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc, après cette désinvestiture entre les mains de Jeanne d'Arc, eh bien on en trouve des échos dans d'autres textes qui sont plus ou moins contemporains. Un des premiers textes qu'on peut regarder, c'est le texte de Bertrand de Poulengy, la déposition de Bertrand de Poulengy. Bertrand de Poulengy, c'est un de ceux qui ont accompagné Jeanne d'Arc depuis Vaucouleurs, depuis la place dont le capitaine était Robert de Baudricourt, jusqu'à Chinon. Donc c'est quelqu'un qui connaissait relativement bien Jeanne d'Arc. Et comme vous le savez, Jeanne d'Arc a eu plusieurs procès, il y en a eu au moins deux très importants, en 1431, celui de Rouen, et puis en 1455-56, le procès d'annulation de la condamnation de Rouen. Et en 1456, un certain nombre de témoins ont été sollicités pour donner leur témoignage sur leurs souvenirs, sur ce qu'ils se rappelaient de Jeanne d'Arc. Et il y a notamment cette déposition de Bertrand de Poulengy. Donc on est bien longtemps après, mais il rapporte quand même des souvenirs qui sont contemporains du printemps 1429. Cette Jeanne disait en effet que le royaume n'appartenait pas au dauphin, mais à son seigneur. Son seigneur, j'aurais dû mettre une majuscule. Ce dernier, cependant, voulait que le dauphin devint roi et tint le royaume en commande, d'où le titre, hein, la mise en commande. Elle ajoutait que malgré ses ennemis, le dauphin deviendrait roi et qu'elle le conduirait pour le faire sacrer. Lequel Robert de Baudricourt lui ayant demandé quel était son seigneur, elle répondit « le roi du ciel ». Voilà. Donc finalement, vous voyez déjà les échos par rapport au premier texte, celui de Jean Dupuis. C'est-à-dire qu'ici, il est bien dit que le dauphin, après tout, Charles VII est roi légalement, de son point de vue, il est roi depuis la mort de son père. Il n'y a pas de solution de continuité. Dans sa logique à lui, il est roi depuis le 22 octobre 1422, depuis la mort de Charles VI. Mais comme vous le savez, Jeanne d'Arc s'adresse toujours à lui comme le gentil dauphin, c'est-à-dire le noble dauphin. Elle ne le considère pas comme pleinement roi. Cette Jeanne disait en effet que le royaume n'appartenait pas au dauphin, mais à son seigneur, c'est-à-dire à Dieu. Donc toujours cette idée que le vrai roi de France, c'est Dieu. Ce dernier, donc Dieu, cependant, voulait que le dauphin devint roi et tint le royaume en commande. Alors donc là, ce n'est pas mon orthographe qui est défaillante, hein, c'est bien commande avec un E, et c'est c'est un terme juridique en fait qui désigne quelque chose qui est gardé en dépôt, qui vous est confié, mais dont vous n'êtes pas le détenteur légitime. Hein, et on parle souvent notamment des abbés commendataires, c'est-à-dire des abbés qui n'étaient pas résidents, mais qui touchaient simplement les revenus de telle ou telle abbaye. Éteint le royaume en commande. Elle ajoutait que malgré ses ennemis, le dauphin deviendrait roi, qu'elle le conduirait pour le faire sacrer. Et de nouveau, hein, donc, le roi du ciel, c'est le vrai roi de France, c'est le roi du ciel. Donc vous voyez qu'il y a toujours, entre le texte de Jean Dupuis et le texte, la déposition bien plus tard de Bertrand de Poulengy, on voit un certain nombre de similarités. Autre déposition, toujours en 1456, d'un personnage qui est beaucoup plus important que Bertrand de Poulengy, c'est le duc d'Alençon. C'est le personnage, à l'époque de Jeanne d'Arc, c'est le plus proche parent de Charles VII en liberté, en fait, parce que le duc d'Orléans est fait prisonnier, le duc de Bourgogne est son ennemi, et le duc d'Alençon donc, est un de ses plus proches. Et c'est celui que Jeanne d'Arc, qui était peut-être un petit peu amoureuse de lui, l'appelle mon beau duc. Mon beau duc, voilà. Alors Jeanne adressa plusieurs requêtes au roi. Donc on est toujours de nouveau enfin, en 1456. Hein. Alors Jeanne adressa plusieurs requêtes au roi, et entre autres pour qu'il donnât son royaume au roi des cieux. Après cette donation, le roi des cieux agirait comme il l'avait fait pour ses prédécesseurs et le remettrait à son état intérieur. Il y eut aussi beaucoup d'autres choses que le témoin ne se rappelle pas, mais dont on parla jusqu'au repas. Donc vous voyez, de nouveau, cette curieuse scène que dans le texte de Jean Dupuis, s'il y avait eu que le texte de Jean Dupuis, il dit bon, on ne peut pas en tirer grand-chose, puisque c'est une scène allégorique, une invention, quelque chose dont on ne peut pas tirer beaucoup d'éléments. Mais vous voyez que chez Bertrand de Poulengy, et de nouveau peut-être encore plus chez le duc d'Alençon, il y a vraiment quelque chose qui va dans le même sens, hein, cette requête adressée par Jeanne à Charles VII. Ici, nous avons la déposition de frère Jean Pasquerel, qui est le confesseur de Jeanne d'Arc. Mais on ne va pas la voir tout de suite, puisque on va d'abord s'intéresser à un autre témoignage, qui est celui d'Eberhard Windeke. Alors, Eberhard Windeke, c'était un chroniqueur de langue allemande qui était à la cour de Sigismond de Luxembourg, qui était à cette époque-là l'empereur, hein, l'empereur de l'Empire romain germanique. Et Eberhard Windeke a utilisé dans sa chronique, qu'il écrit en allemand, mais qui, grâce au ciel, a été traduite par Germain Lefebvre-Pontalis, hein, donc dans ce livre « Les sources allemandes de l'histoire de Jeanne d'Arc », Eberhard Windeke utilise pour sa chronique des documents qui lui viennent de France, en fait, exactement comme le faisait Jean Dupuis. On ne sait pas exactement quand il a écrit, il a peut-être écrit plutôt, lui, dans la décennie 1430. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'aventure de Jeanne d'Arc l'a beaucoup passionné, fasciné, et qu'il en tient compte dans sa chronique en utilisant donc des épisodes qui lui ont été rapportés, sans doute par des courriers officiels du roi de France auprès de Sigismond de Luxembourg. Et de nouveau, on retrouve l'épisode qui nous occupe ce soir. D'abord, quand la pucelle, et de nouveau, hein, je ne sais plus que c'est Mädchen, hein, quelque chose comme ça en allemand, mais c'est toujours cette idée, voilà, elle est connue partout comme étant la pucelle ou la demoiselle. D'abord, quand la pucelle vint au susdit roi, il dut lui promettre de faire trois choses. La première, qu'il se démît de son royaume, qu'il y renonça et qu'il le remît à Dieu, car il le tenait de lui. La seconde, qu'il pardonna à tous les sujets qui lui avaient honte fait tort ou avaient pris parti contre lui. La troisième, qu'il s'humilia si fort que tous ceux qui viendraient à lui, pauvres et riches, et demanderaient grâce, il les prit en grâce, amis ou ennemis. Donc, vous voyez, on a le texte de Jean Dupuis, le texte d'Eberhard Windeke, qui tous les deux sont tributaires de nouvelles qui leur parviennent de la cour de France. Et puis, on a les deux autres dépositions, enfin, les deux dépositions de Bertrand de Poulengy et du duc d'Alençon, qui toutes les deux vont également dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'une remise du royaume à Jeanne d'Arc le remettant à Dieu, et Dieu en réinvestissant Charles VII par le biais de Jeanne d'Arc. Alors, ces textes, finalement, ont reçu assez peu d'intérêt chez les historiens de Jeanne d'Arc, qui se sont occupés plutôt à d'autres épisodes ou à d'autres aspects, disons, plus positifs, plus sur lesquels on avait davantage de prise. Mais je crois que là, nous avons quand même un ensemble de textes qui nous guide dans une certaine direction pour comprendre les relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII, entre février et juillet 1429. Un des aspects les plus fascinants de l'épopée de Jeanne d'Arc au printemps 1429, et ce dont on n'a pas toujours tellement conscience, c'est le fait que cette épopée de Jeanne d'Arc a fait l'objet d'un retentissement européen, vraiment un retentissement à l'échelle européenne, c'est-à-dire que l'aventure de Jeanne d'Arc a intéressé non seulement le royaume de France dans ses deux parties, celle qui dépendait de Charles VII, le royaume de Bourges, et le nord de la France qui dépendait des Anglais, de la double monarchie et du duc de Bourgogne, également bien sûr en Angleterre, mais voyez, dans l'Empire, en Italie, à la cour pontificale, également en Espagne, on a des témoignages, des traces plus ou moins effacées, mais plus ou moins atténuées, malgré tout de l'intérêt très fort qu'a suscité l'aventure de Jeanne d'Arc un petit peu partout en Europe. Un des témoignages les plus fascinants de, cet engouement pour Jeanne d'Arc nous vient de d'un recueil de lettres qui n'est pas aussi connu peut-être qu'il pourrait l'être parmi les sources relatives à Jeanne d'Arc. Ce recueil de lettres a été compilé par un certain Antonio Morosini, qui était un patricien vénitien, ou un grand marchand vénitien plutôt. Et ce grand marchand vénitien recevait des lettres des membres de sa famille ou de sa compagnie marchande qui avaient des comptoirs un petit peu partout. C'est-à-dire, il y avait des comptoirs à Bruges, en Flandre, des comptoirs à Avignon, des comptoirs à Lyon, des comptoirs à Paris. Et pour eux, déjà, pour ces marchands, évidemment, la connaissance du contexte politique était évidemment vital. Et du coup, on a, dans cette correspondance Morosini, dans ces lettres qui sont échangées entre les différents comptoirs et qui remontent évidemment vers Venise pour informer le chef de la maison commerciale de ce qui se passe un petit peu en Europe, eh bien, on a de très nombreuses lettres qui sont relatives à Jeanne d'Arc. Et c'est aussi Lefebvre Pontalis qui a rassemblé cette documentation, qu'il a publiée. Et alors, il a publié 4 tomes. Le premier tome, c'est uniquement le nombre de ballots de marchandises, etc., qui sont échangés entre tel et tel comptoir, entre tel et tel... de la correspondance vraiment purement commerciale. Mais il y a tout un deuxième tome qui concerne Jeanne d'Arc. Et alors, ces lettres relatives à Jeanne d'Arc sont vraiment fascinantes. Pourquoi elles sont fascinantes ? Parce qu'elles sont presque entièrement, et pourtant ce sont des marchands qui écrivent, des marchands qui communiquent des informations entre eux, c'est-à-dire sans aucun souci de tromper. Bien, toutes ces informations, 90% de ces informations, sont fausses. Non pas simplement des détails, mais il y a une lettre, notamment, que j'aurais pu reproduire ici, une lettre dans laquelle un des correspondants de Morosini explique que Jeanne d'Arc est d'abord entrée avec Charles VII à Rouen, à la fin du mois de juin 1429, que le lendemain, elle est entrée à Paris, Rouen-Paris, une journée, que les Anglais et la paix ont fait la paix, qu'ils vont faire pénitence, qu'ils vont partir en croisade, et que Jeanne d'Arc va conduire Charles VII à Rome pour qu'il y soit couronné comme roi de France. Et donc tout ça dit vraiment sur le ton des informations commerciales, c'est-à-dire des informations solides. Alors on voit bien que ce sont des fake news, comme on dirait aujourd'hui, mais en définitive, ces documents et ces informations étaient vraiment perçues, ressenties et voulues comme étant des informations justes et vraies. Cette correspondance Morosini, un des intérêts malgré tout, c'est que cette scène est évoquée aussi, la scène dont nous nous occupons aujourd'hui, avec juste ce petit extrait que j'ai mis ici. La glorieuse demoiselle, et vous voyez que demoiselle, pucelle, c'est traduit du vénitien, elle est toujours bien connue comme ça. Hein, ça qui est fascinant, c'est que même quand on donne des informations fausses sur Jeanne d'Arc, comme certains traits qui sont vrais, on voit bien que ça a fasciné l'Europe entière. La glorieuse demoiselle, et aussi, si je m'interromps encore un instant, c'est la sympathie qu'elle suscite. Cher Eberhard Windeke, qui était à la cour de Sigismond de Luxembourg, qui était ni pour les Anglais, ni pour les Français, qui cherchaient un peu son intérêt, mais en tout cas, Eberhard Windeke est très favorable à Jeanne d'Arc. Et de même, la correspondance Morosini est elle aussi très favorable à Jeanne d'Arc. La glorieuse demoiselle a promis au dauphin de lui donner, après la couronne de France, un autre don qui vaudra plus que le royaume de France, et ensuite lui a déclaré qu'elle lui donnerait la conquête de la Terre Sainte et qu'elle serait de sa compagnie, comme l'on dit. Alors oui, c'est un tout petit témoignage, mais... un tout petit extrait, mais vous voyez qu'il est bien dit dans la première phrase que Jeanne d'Arc a déjà donné à Charles VII le royaume de France. Et je suis persuadé que ce don fait référence à cet épisode rapporté par Jean Dupuis, rapporté par Herbert Weindecke, rapporté par Bertrand de Poulengie ou rapporté par le duc d'Alençon. À cette scène donc très mystérieuse où Jeanne d'Arc aurait réinvesti le royaume de France dont Charles VII se serait auparavant désinvesti. Scène un petit peu mystérieuse. Cette scène mystérieuse, d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Alors, en définitive, des exemples d'abdication ou de désinvestiture comme ça, on n'en trouve pas tant que ça dans l'histoire. En définitive, dans l'histoire médiévale, il faut attendre finalement les grands exemples d'abdication. C'est par exemple celui de Charles Quint, hein, qui abdique et qui se retire ensuite dans un monastère. Mais finalement, l'abdication délibérée, spontanée, volontaire, libre, ça n'est pas quelque chose de très médiéval. On pourrait dire qu'il y a des exemples en Angleterre, mais c'est toujours des dépositions suivies d'un assassinat pour Édouard II en 1327, pour Richard II en 1399, et à plusieurs reprises pendant la guerre des Deux Roses. Mais c'est pas quand même quelque chose comme une abdication. Alors on peut voir évidemment des modèles dans l'Ancien et surtout le Nouveau Testament, mais je parle pas trop fort, hein, mais notamment dans une lettre de saint Paul, hein, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Donc c'est à ça peut-être qu'on peut penser quand on voit le Charles VII se serait dévêtu de l'homme ancien et aurait revêtu l'homme nouveau, un petit peu comme dans cette lettre de saint Paul. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça d'exemples qui soient mobilisables, d'exemples réels témoignant de d'une possible abdication. Quel est donc le sens de cet épisode qui, pourtant, vous le voyez, a été assez largement diffusé ? La réponse à la question, me semble-t-il, vient du moyen qui a été utilisé pour diffuser cet épisode. Vous voyez que cet épisode a été connu aussi bien à Rome, par Jean Dupuis qui séjournait à la cour du pape, qu'à la cour de Sigismond de Luxembourg, je ne sais pas où il résidait à cette époque-là, mais en Allemagne en tout cas, ou à Prague, mais aussi par des proches du roi ou de Jeanne d'Arc, comme Bertrand de Poulengy, ou le duc d'Alençon. Donc une diffusion quand même relativement large qui montre que cet épisode a été délibérément diffusé par le gouvernement de Charles VII. Il n'y a pas d'autre solution que d'imaginer que c'est bien Charles VII ou ses conseillers qui ont diffusé eux-mêmes, par eux-mêmes, de leur propre gré, cet épisode de la désinvestiture de Charles VII et de sa réinvestiture. Or, on sait, grâce aux travaux d'une historienne américaine qui a profondément renouvelé les choses, cette historienne américaine s'appelle Deborah Fraioli, que Deborah Fraioli a montré, et je crois que c'est la première à l'avoir faite de façon aussi, et même d'avoir eu cette idée, qu'à la cour de Charles VII, entre le moment où arrive Jeanne d'Arc, et à partir du moment où arrive Jeanne d'Arc, février 1429, Jeanne d'Arc a fait l'objet d'une intense propagande de la part du gouvernement de Charles VII. C'est-à-dire qu'on sait bien notamment que quand Jeanne d'Arc arrive à Orléans, donc à la fin du mois d'avril 1429, quand elle entre dans la ville pour la première fois, elle est accueillie déjà comme le sauveur. Hein, donc elle est sur un cheval blanc, c'est à la lueur des flambeaux, etc. Enfin, la grande liesse des Orléanais qui avait déjà beaucoup entendu parler d'elle. Mais cette diffusion, cette connaissance qu'avaient les Orléanais de Jeanne d'Arc, il faut imaginer qu'elle était beaucoup plus vaste que ça. Et ce que Deborah Fraioli, cette historienne américaine, a montré, c'est que le gouvernement de Charles VII avait diffusé un véritable dossier de propagande qui avait été envoyé largement dans les bonnes villes du royaume qui reconnaissaient l'autorité de Charles VII. On en a ainsi un exemple à La Rochelle. La Rochelle, port très important pour Charles VII, il y a une sorte de registre municipal écrit par celui qu'on appelle le greffier de La Rochelle. Et ce registre municipal contient un certain nombre d'éléments relatifs à Jeanne d'Arc qui proviennent de ce dossier de propagande. On sait que d'autres villes, dans d'autres registres municipaux, Cahors, Albi, Toulouse, il y a aussi des traces de cet effort de propagande autour de Jeanne d'Arc. J'emploie ici le terme de propagande de façon totalement neutre, on pourrait dire de diffusion de l'information. Alors c'était évidemment, il y avait un but politique, mais ce n'est pas quelque chose de péjoratif dans ma bouche ici. Cette diffusion de ce dossier, ce dossier donc a été diffusé et a été diffusé également dans les cours étrangères, qu'il s'agissait de rallier à Charles VII, Charles VII n'étant pas toujours reconnu pleinement comme roi de France, ni par le pape, ni par l'empereur. Donc il était important de faire connaître cette Jeanne d'Arc qui arrivait auprès de lui, qui était arrivée auprès de lui. Que contenait donc ce dossier de propagande diffusé par les soins du gouvernement de Charles VII? Eh bien, contenait une description physique de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, on savait qu'on disait qu'elle était petite, avec les cheveux noirs coupés au bol, et qu'elle portait un habit d'homme. Vous savez que c'est l'habit d'homme, c'était traumatisé complètement les gens du XVe siècle, hein, qui ont fait, hein, que c'est ça qui a conduit finalement Jeanne d'Arc au bûcher. C'est au moins le prétexte qui l'a conduit au bûcher. Et Jeanne d'Arc mène d'ailleurs une insistance, une obsession de l'habit d'homme qui est un peu curieuse. Enfin, mais en tout cas, elle y était elle-même très attachée. Mais même dans le camp de Charles VII, ça n'allait pas de soi. Hein. On ne considérait pas du tout que le fait qu'elle porte un habit d'homme soit légitime. Il avait fallu que des théologiens se posent la question gravement, etc. Pourquoi elle serait autorisée à porter un habit d'homme? Bref. En tout cas, c'était revendiqué dans le dossier de propagande. Il y avait aussi une description de ses vertus. Une description de ses vertus, qu'elle était pieuse, qu'elle était sobre, qu'elle parlait peu, etc. Donc, une description un petit peu physique, une description morale. Dans ce dossier de propagande, il y avait aussi des prophéties. Vous savez, la prophétie la plus connue, c'est la prophétie selon laquelle le royaume de France, ayant été perdu par une femme, serait restauré par une autre femme. Alors, tout lieu de penser que c'est une prophétie qui a été créée pour l'occasion, mais il y avait d'autres prophéties ou d'autres textes comme ça qui circulaient, qui sont contenus également dans ce dossier de propagande. La première mauvaise femme, c'était Isabeau de Bavière, qui avait conclu le traité de Troyes, qui déshéritait notamment son fils Charles VII. Et la bonne femme, enfin la femme qui restaurerait le royaume, c'était évidemment Jeanne d'Arc. Dans ce dossier de propagande se trouvait également la conclusion des commissaires de Poitiers, puisque Jeanne d'Arc, après être arrivée à Chinon, est expédiée à Poitiers, où se trouvait alors l'université qu'avait créée Charles VII, puisque la grande université, c'était l'université de Paris, et qui était aux mains des Bourguignons et favorable donc au traité de Troyes. Et donc, à Poitiers, Jeanne d'Arc est examinée. D'abord, on examine sa virginité, hein, parce qu'on vérifie quand même que l'examen donc, physique. Et puis, elle est soumise également à un feu roulant de questions par des gens, des théologiens, des juristes, des ecclésiastiques, tous, hein, qui l'interrogent sur, évidemment, le sens de sa mission. Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu un procès-verbal de cet interrogatoire de Poitiers, puisque Jeanne d'Arc, dans son procès de 1431, fait référence au livre de Poitiers. Donc il semble qu'il y ait eu quand même un ensemble, enfin, les questions qui lui ont été posées, les réponses qu'elle avait apportées. Donc ce serait assez intéressant si on avait ce manuscrit, mais malheureusement il est perdu depuis longtemps et on ne sait même pas exactement ce à quoi il pouvait renvoyer. Mais en tout cas, dans le dossier de propagande, il y avait le court texte par lequel les commissaires de Poitiers déclaraient que Jeanne d'Arc était personnage légitime qu'on pouvait employer. C'était pas très enthousiaste, hein, parce que les clercs, les ecclésiastiques, tout était assez méfiant à l'égard de Jeanne d'Arc, qui se disait inspirée par Dieu. Et ces clercs, ces commissaires, ces théologiens, ces juristes avaient demandé à Jeanne d'Arc de donner un signe qu'elle était bel et bien envoyée par Dieu. Elle avait dit, mais je ne suis pas là pour donner des signes, et menez-moi devant Orléans, et là, je vous donnerai un signe. Et donc, c'est ce qui, effectivement, s'est passé par la suite. Donc, un dossier, vous voyez, assez complet, assez varié. Il y avait sans doute d'autres textes, et c'est un dossier qui a sans doute évolué au fil du temps, au fil du printemps 1429. Mais dans ce dossier, il y avait aussi donc, cet épisode, cette allégorie, enfin, cet épisode très mystérieux, de la mise en commande du royaume, c'est-à-dire l'idée que le royaume aurait été perdu, presque, on peut dire, par Charles VII, et qu'il aurait été ensuite réinvesti, venant de Dieu, par Jeanne d'Arc. Alors donc, au moins, on a résolu cette question, pour savoir comment, à Rome, comment, à la cour du pape, on avait pu avoir connaissance de ce, de cet épisode. Je cherche la suite de mon propos. Que signifie donc cet épisode ? Et comment est-ce qu'on peut le relier à ce thème des relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII. Comme vous le savez, ces relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII sont un petit peu mystérieuses. Il y a au moins une accusation qu'on peut écarter concernant Charles VII, c'est que Charles VII n'aurait rien fait pour libérer Jeanne d'Arc. Mais ça, on sait bien que Jeanne d'Arc, à partir du moment où elle est faite prisonnière par les Bourguignons en mai 1430, évidemment, jamais elle n'aurait été relâchée. La meilleure preuve, c'est que le jour de sa capture, elle est faite prisonnière avec son frère, avec un de ses frères. Et le frère, qui était menu fretin, hein, est libéré très rapidement contre une rançon modique. C'était pourtant le frère de Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc n'était évidemment pas du tout question de la libérer. Et les Anglais, en remettant Jeanne d'Arc au juge ecclésiastique, à Pierre Cochon et à Jean Lemaître, qui s'adjoindra à lui ensuite, précisent bien que si Jeanne d'Arc n'est pas condamnée, les Anglais la reprendront. Hein, donc il n'était pas question, c'est pas vraiment. Le sort de Jeanne d'Arc était scellé. Donc on ne peut pas tellement reprocher à Charles VII d'avoir rien fait pour libérer Jeanne d'Arc alors qu'elle était, une fois qu'elle était prisonnière. Mais je crois que. Donc ça, c'est le premier point finalement qu'on peut dire. Mais en définitive, ces relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII sont assez mystérieuses à partir de février 1429. Et il est très regrettable que parmi les témoins qui ont été sollicités en 1456 pour le procès d'annulation de la condamnation, on a vu, il y a le duc d'Alençon, il y a le confesseur dont on reparlera tout à l'heure, frère Jean Pasquerel, il y a un certain nombre de personnages importants, mais curieusement, en dehors du confesseur, le témoin le plus important, ça aurait dû être Charles VII, celui qui avait le plus de choses à dire, puisqu'il y a beaucoup de choses que Jeanne d'Arc avait dites à Charles VII. Et on sait que Jeanne d'Arc a eu quand même un effet, on ne sait pas exactement lequel, on ne sait pas ce qu'elle lui a dit exactement, mais elle lui a redonné confiance quand même, lors des rencontres qu'elle a eues avec lui en février 1429 et sans doute un petit peu après, au cours du printemps. Mais en définitive, on sait qu'en février, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose, elle lui a dit quelque chose qui a redonné confiance à Charles VII. Sans doute autour de sa légitimité, autour de ce fait qu'il était justement le vrai roi de France. Mais en même temps, ce qui est frappant, c'est que dans toute la suite, entre février et entre mars, disons, et juillet 1429, Charles VII n'apparaît absolument pas. Il n'apparaît absolument pas. C'est Jeanne d'Arc qui absorbe toute la lumière. Si vous vous souvenez de la petite chronologie que j'ai montrée tout à l'heure, donc elle libère Orléans en 8 mai 1429. Charles VII n'est pas du tout, il reste à Chinon. Charles VII n'approche pas, il n'approche pas. Après tout, il aurait pu être là, au moins être présent. De même, Charles VII, dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, alors que les Orléanais s'attendaient à la venue, à la joyeuse entrée de Charles VII, Charles VII n'entre pas dans Orléans, il ne fait pas d'entrée alors que tout le monde s'y attendait. De même, dans les combats qui ont lieu entre le 11 et le 18 juin, ou même à la bataille de Patay, Charles VII est complètement absent. Charles VII finalement réapparaît à la fin du mois de juin 1429, quand Jeanne d'Arc le supplie d'aller chercher son sacre à Reims. Et il y a tout lieu de penser qu'effectivement c'est elle qui l'a poussé, qui l'a convaincu, ou en tout cas c'est l'image que les chroniqueurs en donnent, l'idée que Charles VII finalement est presque un ballot, hein, quelque chose qu'on déplace, un objet passif comme ça, qu'on déplace jusqu'au sacre, hein, jusqu'au sacre du 17 juillet 1429. Et après le sacre, Charles VII prend cette fois toute la lumière. Et Jeanne d'Arc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, commence un petit peu à décliner, commence à être un petit peu au second plan. On le voit bien, notamment le 15 août. Le 15 août 1429, à Montépillois, c'est près de Senlis, l'armée anglo-bourguignonne, avec à sa tête le régent de France, c'est-à-dire le duc de Bedford, qui est le régent du royaume de France au nom de Henri VI, est opposé à l'armée française qui est dirigée par Charles VII en personne. Et les deux armées sont face à face, à quelques centaines de mètres de distance, et Charles VII refuse le combat. Il refuse. Jeanne d'Arc était pour qu'on fonce dans le tas, mais là, Charles VII a pris la... On voit bien qu'à partir de ce moment-là, Charles VII a pris le pas sur Jeanne d'Arc. Hein, et Charles VII est redevenu le chef de l'armée, le chef du royaume, etc., le chef de son propre camp. De même, le 8 septembre, hein, Jeanne d'Arc lance un assaut contre Paris, mais un assaut pour lequel elle est mal soutenue. Charles VII n'y croit visiblement plus. Charles VII est déjà en train de préparer la phase de négociation. Et donc, il y a vraiment ici l'idée qu'au mois de septembre, dès le 15 août, comme vous voyez, sans doute dès le sacre, hein, Charles VII est repassé au premier plan, alors qu'il est passé complètement au second plan entre février et juillet 1429, au point de ne pas aller à Orléans. Hein, c'est quand même un point tout à fait fascinant. Et après, si on reprend la chronologie, Jeanne d'Arc est cantonnée dans des opérations tout à fait secondaires, et c'est en catimini qu'elle quitte, encore une fois, Sully-sur-Loire, en mars 1430. Charles VII ne lui donne pas une armée, ne lui donne pas un grand corps de bataille pour aller combattre. Hein. Il ne l'autorise même pas officiellement à aller combattre. Hein. Donc leurs rapports se sont quand même à ce moment-là beaucoup distendus. Donc il faut revenir à cet épisode de Jean Dupuis, ici, cette mise en commande du royaume. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est un récit, si je résume, c'est un récit qui a été diffusé par le gouvernement royal, par les conseillers de Charles VII, qui a été diffusé largement et qui pourtant met Charles VII dans une position difficile, puisque une position de très grande humilité, puisque finalement il perd son royaume. Et donc l'hypothèse que je voudrais formuler, c'est celle-ci, c'est que en définitive, entre février et juillet 1429, il y a une espèce de gigantesque pari de la part des conseillers de Charles VII, un pari que Jeanne d'Arc parviendrait d'une façon ou d'une autre à faire sacrer Charles VII et qu'elle parviendrait à faire reconnaître pleinement sa légitimité. Et ce pari, ça a été justement a été manifesté par ce texte, cette mise en commande du royaume, cet épisode très allégorique, où Jeanne d'Arc aurait réinvesti, cette pauvre paysanne aurait réinvesti au nom de Dieu le roi Charles VII de sa couronne. Mais vous voyez que c'est très mystérieux, puisque cette réinvestiture, elle est faite par Jeanne d'Arc, elle n'est pas faite par elle ne fonde pas la légitimité de Charles VII sur sa filiation. Elle ne fonde pas sa légitimité sur le droit du vainqueur en guerre. Elle ne le fonde pas non plus sur le sacre, puisque le sacre n'arrivera que bien après. Et donc, on a une idée un petit peu, si vous voulez, à travers cet épisode très allégorique, on a une idée finalement du désespoir dans lequel se trouvait Charles VII, qui est prêt à jouer finalement son va-tout en mettant en avant la figure de Jeanne d'Arc, et en se mettant complètement en retrait entre février et juillet 1429. Et donc, il y a vraiment ici un épisode assez rare, un épisode dans lequel Charles VII connaît une totale éclipse au profit de Jeanne d'Arc. Et Charles VII ne revient encore une fois sur le devant de la scène qu'à partir du moment où il est sacré, et de fait, on sait que pour l'opinion contemporaine, le sacre de Charles VII a tout changé. On sait bien que dans un des textes les plus célèbres des contemporains, c'est le journal d'un bourgeois de Paris, qui est en fait un clerc de l'Université de Paris, qui est très favorable aux Bourguignons, favorable donc au traité de Troyes. Il n'aime pas tellement les Anglais, mais enfin, voilà, il déteste les Armagnacs. Et jusqu'au sacre, ce bourgeois de Paris, qui est en fait un clerc, écrit de Charles VII qu'il est le soi-disant dauphin Charles, le prétendu dauphin, le dauphin des Armagnacs. Donc, des termes qui sont vraiment tous péjoratifs. Et après le sacre, dans son journal, ce bourgeois, ce clerc parisien, écrit toujours le roi Charles. Il n'écrit pas encore le roi de France, mais il écrit quand même le roi Charles. C'est-à-dire que, même dans la sphère de domination anglo-bourguignonne, au nord du royaume, Charles VII était désormais reconnu non plus comme le soi-disant dauphin, comme le dauphin des Armagnacs, mais bel et bien comme le roi Charles, comme ayant une véritable légitimité. Et Jeanne d'Arc, quand elle appelait gentil dauphin Charles VII, qui lui s'intitulait depuis 1422 roi de France, hein, par la grâce de Dieu roi de France, eh bien, elle était le témoin finalement de cette opinion publique qui ne voyait dans Charles VII qu'un demi-roi ou qu'un roi incomplet, puisqu'il n'avait pas été sacré. Les Anglais le sentiront d'ailleurs, puisque en décembre 1431, ils font procéder à Notre-Dame de Paris à un sacre, une sorte de parodie, enfin pas parodie, mais enfin de simulacre plutôt de sacre, à Notre-Dame de Paris pour le jeune Henri VI, qui a à l'époque une dizaine d'années, pour le faire sacrer comme roi de France. Mais ce sacre, on le sait par notamment le journal du Bourgeois de Paris, n'a pas du tout eu l'effet escompté et personne n'a considéré que Henri VI était vraiment loin, qu'il avait vraiment reçu l'onction du sacre, au contraire de ce qu'avait reçu Charles VII le 17 juillet 1429. Donc vous voyez que cet épisode, ce texte ici un peu mystérieux, renvoie finalement à une entreprise de propagande qui a été d'humilier volontairement Charles VII, de le faire disparaître. Sans doute était-il alors très discrédité, hein, il n'était pas, on ne faisait pas confiance, et donc il se tient à l'écart, et humilié mais réinvesti, il réapparaît à partir du moment où il est sacré. Et c'est le dernier témoignage que je voudrais évoquer, c'est justement la déposition de frère Jean Pasquerel, qui est le confesseur de Jeanne d'Arc. Et Jean Pasquerel, c'est un personnage important, c'était le confesseur. Donc il a dû, comme vous savez, Jeanne d'Arc se confessait énormément, donc il devait connaître pas mal de choses. Et voilà ce qu'il dit. « Le circonte de Vendôme conduisit Jeanne auprès du roi et la fit entrer dans la chambre royale. » Donc c'est, là, il se situe, il est lui aussi interrogé en 1456, je ne l'ai pas précisé, mais il rapporte des événements de l'hiver, enfin de février 1429. « Le circonte de Vendôme conduisit Jeanne auprès du roi et la fit entrer dans la chambre royale. » Lorsqu'il la vit, le roi demanda à Jeanne son nom. Elle répondit « Gentil dauphin, donc noble dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et le roi des cieux vous mande par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et vous serez le lieutenant du roi des cieux, qui est roi de la France. » Après plusieurs questions posées par le roi, Jeanne dit à nouveau « Moi je te dis, de la part de Messire, que tu es vrai héritier de France et fils de roi, et il m'envoie à toi pour te conduire à Reims, où tu recevras la couronne et le sacre si tu veux. » L'ayant entendu, le roi déclara aux assistants que Jeanne lui avait dit certains secrets que personne ne connaissait ou ne pouvait savoir, si ce n'est Dieu. Aussi avait-il grande confiance en elle. Toutes ces choses, le témoin les a entendues de Jeanne elle-même, car il ne fut pas alors présent. Donc vous voyez, ici, on a un écho quand même de cet épisode de la remise de la couronne, mais un écho quand même qui est très atténué par rapport à ce que disait Jean Dupuis, par rapport à ce que disait Bertrand de Poulengy. Il est juste ici question du fait que Jeanne va conduire Charles VII, le dauphin, on appelle toujours le dauphin, à Reims, pour qu'il y soit sacré. Mais vous aurez noté quand même, il y a cette allusion au fait que le vrai roi des cieux, enfin le vrai roi de la France, pardon, c'est le roi des cieux, c'est Dieu. Et que Charles VII n'est donc que le lieutenant de Dieu pour le royaume de France. Lieutenant, hein, c'est-à-dire étymologiquement, celui qui tient le lieu d'eux. Et donc, on a toujours ici cet épisode de la mise en commande. Alors, un petit peu atténué, je crois, parce que Jean Pasquerel, quand même attaché, il est moins direct que ne le sont Bertrand de Poulengy et le duc d'Alençon, qui mettent toujours, eux, qui se rappellent toujours cette scène où Jeanne aurait demandé au roi son royaume, lui aurait en quelque sorte arraché, avant de le lui remettre. Hein. Et je pense que Jean Pasquerel est plus prudent, il n'était pas sur les lieux d'ailleurs, hein, tandis qu'au contraire Bertrand de Poulengy et le duc d'Alençon. Mais il y est quand même fait allusion à cette idée que le vrai roi de France, c'est Dieu, c'est le roi des cieux. Et encore une fois, dans la lettre aux Anglais qui est envoyée le 22 mars 1429 par Jeanne d'Arc, il est bien dit que je dois avoir le texte sous les yeux, je l'avais en tout cas tout à l'heure, il est bien dit que vous ne tiendrez point, Jeanne s'adresse aux Anglais, vous ne tiendrez point le royaume de France de Dieu, le roi du ciel, fils de Sainte Marie, mais c'est le roi Charles qui le tiendra, qui est vrai héritier. Car Dieu, le roi du ciel, le veut, et cela est révélé par la Pucelle au roi Charles, lequel entrera à Paris en bonne compagnie. Donc toujours il y a cette idée au printemps 1429. Il y a cette idée que Charles VII n'est qu'un roi incomplet, il n'est d'ailleurs pour Jeanne d'Arc que le dauphin, comme sans doute pour l'opinion, et que la meilleure des solutions pour que son parti l'emporte et pour que lui-même soit reconnu, c'est qu'il s'efface. Et de fait, encore une fois, Charles VII s'efface entre février et juillet 1429. Ce n'est qu'à partir du moment où il est sacré qu'il réapparaît au premier plan et que Jeanne d'Arc, au contraire, connaît une première phase d'éclipse qui va aller s'aggravant. En un sens, elle avait terminé sa mission historique en faisant sacrer Charles VII à Reims. Voilà, je vous remercie.